Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Yvonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, quand l'art se met au service du pouvoir, une série d'Élise Gruau réalisée par Julie Béressy. Au départ de cette série, il y a des princes, des courtisans, des luttes de pouvoir, des rivalités et le désir d'accumuler le luxe et la beauté. Il y a l'image que l'on se fait de ce peintre appliqué à faire le portrait de celui qui le nourrit. Il en trace une image flatteuse, il le grandit, l'embellit ou le rajeunit. Il y a aussi les mille vies de Léonard de Vinci, courtisan, peintre, inventeur, ingénieur militaire, décorateur et ambianceur tendance jeu de mots et papier crépon. Et il y a bien sûr les grandes galeries du château de Versailles, où le décor peint, la débauche de luxe et le torrent d'allégories créent la puissance autant qu'il la proclame. Mais avec la République, il va falloir tout réinventer. Alors pour commencer, les personnages, des ministres, des artistes, un député maire, Braque, des historiens, Chagall et Buren, un directeur des musées nationaux, des artistes résistants, Paul Belmondo, Calder, Masson, Lang, Malraux, Pompidou et Armand. Ensuite le décor, la Libération, les plafonds du Louvre, l'Opéra Garnier, le théâtre de l'Odéon, les jardins du Palais Royal, la ville aux 100 statues, une cité ouvrière, des ateliers d'artistes, des plafonds qui crèvent les yeux, une coupole et la morgue de l'hôpital de Garches. Aujourd'hui, 4e épisode, on ressort les archives.
Pendant 5 ans, la France s'est passée de musée. Les amateurs se cassaient le nez sur des portes closes. Les habitants des musées étaient partis, envolés vers d'autres cieux, envolés vers des demeures lointaines. C'était Watteau, c'était Vinci, c'était Clouès, c'était Poussin et David, c'était Renoir et Cézanne. C'était tous ces hommes qui un jour avaient fait naître la vie sur une toile. Il a fallu que la guerre finisse pour que tous ces fantômes évanouis retrouvent le jour. Le génie du passé a pu reprendre la route de sa maison d'antan. C'était le Louvre, ou c'était la Malmaison, ou c'était Versailles, et chacune de ces salles immenses, que pendant 5 ans n'avait troublé que le pas d'un gardien mélancolique, se réveillèrent soudain dans un bruit de marteau.
La commande publique au XXe siècle, mirage de l'art pour tous. Élise Gruau, Julie Béressy. En 1945, la réouverture des musées grâce au retour des œuvres mises à l'abri pendant l'occupation est un signal fort du retour à la paix. La France compte sur la relance de sa politique culturelle pour restaurer son prestige et l'État réinvestit son rôle de promoteur des arts. Armé de son bureau des travaux d'art, puis du service de la création artistique et du ministère des Affaires culturelles, il commande des milliers d'œuvres à des peintres et sculpteurs qui viennent orner les institutions, les rues et les places publiques de tout le territoire. De grands musées dédiés à l'art moderne ouvrent, comme le Centre Pompidou. Les années 80 voient la relance de la commande dans l'espace public. De la monarchie à la République, en passant par l'Empire, la commande d'État a longtemps été avant tout une affaire d'État, attribut et instrument du pouvoir de l'État. Mais l'État peut-il avoir du goût? Et comment, en République, la commande d'art rencontre-t-elle le peuple dont elle est censée être l'émanation? Est-il possible de passer d'un art d'État à un art pour tous?
On est au Louvre, Guitemi Maldonado, où nous emmenez-vous?
Nous allons dans la salle Henri II du musée du Louvre. C'est une salle qui date de la Renaissance, dans laquelle Georges Braque a été invité en 1953 à réaliser un plafond, donc des grandes peintures montrant des oiseaux au milieu de boiseries peintes et très richement ouvragées. La commande à Georges Braque s'inscrit d'ailleurs dans un grand mouvement de restructuration du Louvre, de restauration du Louvre, pensé et conçu par Jaujard dans les années 1930, qui n'a pas pu être exécuté du fait de la guerre. Et c'est après la guerre que ce chantier est mis en œuvre. Donc le plafond de Braque s'inscrit dans un programme d'envergure, d'ampleur, de restauration du patrimoine. L'art contemporain vient d'une certaine façon au secours du patrimoine, ou du moins épauler le patrimoine dans sa renaissance et dans la restauration de son prestige écorné par la guerre et affaibli par toutes les destructions et les difficultés qu'a traversé le pays. C'est à l'époque le directeur des musées de France qui lui passe la commande, Georges Salles, avec le soutien d'André Malraux, qui n'est pas encore, le ministère des Affaires culturelles n'existe pas encore, mais André Malraux est déjà au gouvernement, il a un rôle important et il s'intéresse tout particulièrement à tout ce qui relève des arts et de la culture en général. Et quand Georges Salles contacte Braque, il lui dit, voilà, il y a un plafond au Louvre. Au Louvre, il y a déjà trois plafonds 19e, il y a celui de la Croix, celui d'Ingres, celui de Prudhon, et il faut un plafond 20e. Et donc c'est dans l'idée de faire entrer l'art contemporain, mais aussi le XXe siècle, en tant que période historique, que Georges Salles passe cette commande à Georges Braque. Alors le plafond est très chargé, c'est ce qu'il faut noter au départ, des moulures, des dorures, des têtes, des figures. Et puis il y a trois caissons, deux ovales et un rectangulaire au centre de la pièce. Et Braque a choisi un décor assez sobre, des fonds bleus très profonds et très intenses, et sur ce fond bleu qui évidemment évoque le ciel, des oiseaux très stylisés se détachent, des oiseaux noirs cernés de blanc qui inscrivent donc dans ce plafond très très cloisonné, très très structuré, des mouvements plus libre, plus fluide, donc une espèce d'évocation peut-être de la liberté dans l'esprit de Braque, et en tous les cas l'inscription d'un ciel métaphorique, d'un ciel suggéré au sommet de cette salle.
Alors, cher maître, je vous donne la parole.
Inauguration du plafond de Georges Braque au Louvre, 20 avril 1953.
Eh bien, voilà une journée qui m'honore grandement. Je suis très touché qu'une chose pareille me soit déchue. Ça restera pour moi une expérience inoubliable dans ma vie de m'être confronté tout de même avec des époques antérieures, avec Henri II et tout ça. Quand on m'a proposé une chose pareille, j'étais presque dire épouvanté. Seulement, je suis venu ici, j'ai vu ce plafond qui, je crois, est un des plus beaux plafonds du Louvre, soit ce plafond Henri II. Et puis, je suis parti comme ça, sans même l'espoir de donner suite à la chose. Et puis, finalement, ce plafond a fini, poursuivi par cette idée du plafond, il a fini par germer, et ma foi, un jour, quelques jours après, sans même trop penser à la chose, j'ai jeté mes premières esquisses, et alors à ce moment-là, j'avais mordu déjà l'hameçon, et après ça s'est développé.
L'art universel, aujourd'hui comme il y a 30 ans, Braque reste fidèle à son idéal de peintre.
Conséquence de leur mémoire malheureuse, la Troisième et la Quatrième République restaient méconnues sur le plan de l'action culturelle de l'État. Mais une exposition, dans les nouveaux bâtiments des Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine, permet de mettre en lumière la façon dont l'État a soutenu la création artistique de 1945 à 1965, en commandant plus de 4000 œuvres à des peintres et sculpteurs, et en achetant plus de 11 000. Nous rencontrons les deux personnes à l'origine de cette redécouverte, Clotilde Roulier, archiviste, et Philippe Bettinelli, conservateur au Centre national des arts plastiques.
En gros, la première section de l'exposition est consacrée à l'art de la libération, donc vraiment à cette iconographie et puis à la question de la reconstruction. On va remplacer par exemple une partie des statues fondues sous l'occupation. On va également réaliser des œuvres pour les villes reconstruites après les bombardements. La deuxième partie dans laquelle nous sommes en ce moment est consacrée aux relations entre l'art et le pouvoir. On va voir comment la commande va servir à restaurer le prestige de l'État français après l'occupation, après le régime de Vichy. Et ça va prendre des formes extrêmement variées, notamment des commandes de prestige pour les lieux du pouvoir, les résidences présidentielles, le palais de l'Élysée bien sûr, mais également Rambouillet, et également des commandes pour les ambassades. Les ambassades donc, dans lesquelles l'art va servir de vitrine diplomatique de l'excellence culturelle française. Alors, dans ces années de l'immédiate après-guerre, l'État va être particulièrement attentif aux sollicitations que vont faire les collectivités territoriales en matière de décor. Donc on a beaucoup de bas-reliefs pour des bâtiments nouveaux dans ces années-là. On va avoir aussi des décors intérieurs, notamment des grands panneaux décoratifs peints. Ce qu'on a appelé le bureau des travaux d'art, notamment à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, c'est une administration chargée des achats et commandes aux artistes vivants pour le compte de l'État. Donc les achats qui seront déposés en administration ou dans des institutions muséales et les commandes qui vont venir orner l'espace public.
Dans quelle situation sont les artistes au lendemain de la guerre, à la Libération ?
À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la situation est difficile pour de très nombreux artistes. Beaucoup seront dans une situation de misère assez claire et vont compter notamment sur le soutien de l'État pour les aider dans ce moment extrêmement difficile. Ça, on en a des traces assez claires dans les archives où certains artistes vont signaler à l'État qu'ils n'ont plus de charbon, qu'ils ont du mal à se nourrir. C'est aussi un moment de tension dans le monde des arts autour du régime de Vichy, tout simplement. Hein, les artistes qui ont pu être sollicités par le régime de Vichy, ou continuer simplement à travailler sous le régime de Vichy, et ceux qui ont été exclus de toute manifestation artistique, voire pour certains déportés. On va acheter par exemple des œuvres à Zoran Music. Zoran Music, qui est un artiste qui avait été déporté au camp de Dachau et qui a fait des dessins du camp de Dachau, qui sont aujourd'hui des témoignages artistiques de premier plan de l'horreur des camps de concentration. Donc on a ce monde de l'art un petit peu fragmenté à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, et l'État, c'est pas affiché clairement mais on le devine de dossier en dossier, joue un petit peu un rôle de conciliation, en tout cas va essayer de ne pas ajouter à cette fragmentation du monde de l'art. Exposition sur un dossier de commande dans son intégralité, pour montrer vraiment comment se passe très quotidiennement la relation entre l'administration et l'artiste.
Qui permettent de retracer le parcours d'une commande.
Oui.
Et là, donc on est en 1945 et on voit, ce sont des lettres manuscrites qui retracent les relations de la correspondance entre les commanditaires et les artistes.
Alors, le premier item, là sur lequel on peut peut-être s'attarder un tout petit peu, est un exemple de commande à Paul Belmondo. Paul Belmondo fait partie des artistes qui ont eu le plus de commandes sur la période. Et ce dossier Paul Belmondo fait partie d'une série importante puisqu'il s'agit des statues fondues sous l'occupation et donc recommandées à de nouveaux artistes après la guerre. Donc, dans le cas présenté ici, est une commande pour remplacer une statue représentant Marguerite d'Anjou pour la ville d'Angers. La proposition effectuée par Paul Belmondo a été acceptée par la ville d'Angers, mais ce n'a pas toujours été le cas. Hein. Parmi tout ce corpus de dossiers de remplacement des statues, on a parfois des exemples assez intéressants de dialogues assez vifs entre l'administration centrale et les maires des différentes communes de France qui ont du mal parfois à s'accorder sur l'esthétique des nouvelles statues proposées. Et parfois, c'était aussi simplement une question de choix des artistes. Au-delà, il y avait la question de l'esthétique, mais aussi du choix des artistes. Bien souvent, les maires préféraient faire travailler des artistes locaux plutôt que des artistes parisiens.
Les responsables de cette cité nouvelle m'ont demandé de créer une œuvre susceptible d'apporter un élément de chaleur humaine.
Ensuite, on arrive dans le corpus des œuvres dédiées à l'iconographie de la Libération, avec ici un exemple de Jean Amblard qui va réaliser un ensemble de panneaux peints pour la mairie de Saint-Denis. Jean Amblard qui était lui-même résistant. Et on voit qu'en fait, pour développer cette iconographie de la résistance, on fera souvent appel à des artistes qui, eux-mêmes, ont été résistants. Alors Jean Amblard, c'est un artiste qui avait été soutenu par Éluard, par Elsa Triolet, qui était tout à fait bien intégré dans le monde des avant-gardes.
Et donc là, on voit, c'est des panneaux peints, c'est des gravures, des...
Oui,
donc
voilà.
Ça, c'est le catalogue de l'exposition « Peinture de Jean Amblard ».
C'est en effet un livre qui a été publié à l'occasion de la commande, à la suite de la commande. Commande qui montre, en fait, des résistants dans les maquis. Donc vraiment, on est sur une iconographie guerrière. On les voit mitrailleuses à la main, au milieu des feuillages, un thème que Jean Amblard aura beaucoup traité. Avec cette idée que la forêt a été l'ami de l'homme pendant quelques années par le biais de la résistance.
La loi qui oblige à consacrer 1% du budget de chaque construction publique à la création artistique permettra non seulement à l'œuvre d'art de se multiplier, mais aussi de prendre sa place dans notre vie de tous les jours, comme cette sculpture d'Adam qui s'est intégrée au jeu des élèves du lycée de Vincennes.
La loi dite du 1% oblige à consacrer 1% du budget de construction d'un bâtiment à la création d'une œuvre d'art. Votée en 1951, elle a permis de décorer les administrations, établissements scolaires et les centres sportifs. Quand l'État commande des statues, elles sont stockées, puis réparties ou non sur le territoire. Fondues dans le tissu urbain, parfois on ne les voit même plus. Cependant, Barentin, petite ville industrielle à 20 km au nord-ouest de Rouen, est un cas à part, du fait de l'action d'un homme, André Marie. Maire de la ville pendant 30 ans, de 1945 à 1974, et 6 fois ministre, principalement de la justice et de l'éducation, ou comment les fonctions nationales savent servir les intérêts locaux et le projet d'un homme dans la 4e République. Nous rencontrons l'historien Loïc Vadelorge.
Là, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire vous allez voir qu'il y a ici, dans le centre-ville de Barentin, quasiment une statue tous les 10 mètres. Et donc c'est un vrai musée qu'on peut parcourir, qui est assez étonnant parce qu'on traverse le temps, on a Jeanne d'Arc, on a des personnages plus contemporains qui donc scandent un petit peu le rythme du centre-ville et qui lui donnent un peu l'unité qu'il n'a pas du point de vue architectural et urbanistique. La ligne des statues permet vraiment de lui donner une forme d'unité. Donc à Barentin, ce qu'il y a de particulier sous l'angle culturel, c'est que c'est une ville qui a une collection de statues dont une grande partie en fait est exposée dans l'espace public. Donc ce qui s'appelle depuis les années 50 le musée dans la ville ou le musée dans la rue. Et donc c'est assez unique en France puisqu'il y a plusieurs dizaines de statues. Donc le nombre exact est toujours un petit peu délicat à apprécier, mais il y en a entre 100 et 160. Dans les années 50, on parlait de la ville aux 100 statues, un peu par comparaison avec la ville aux 100 clochers, qui est Rouen, la ville proche. La ville aux 100 clochers, c'était une expression de Victor Hugo. Et donc, la ville aux 100 statues de Barentin, elle offre en fait la possibilité aux habitants, aux touristes, aux visiteurs de Barentin, de contempler quasiment tous les 10 mètres des statues originales. Là, il y a très très peu de copies, la plupart sont des statues originales. Et donc, c'est une sorte de musée de la statuaire, principalement du XXe siècle, avec quelques pièces plus anciennes du XIXe, voire du XVIIIe siècle. Mais pour l'essentiel, c'est la statuaire de la IIIe, IVe République, avec quelques compléments qui permettent d'aller presque jusqu'à nos jours. On vient de passer devant Jeanne d'Arc. Alors bon, Jeanne d'Arc en Normandie, c'est quand même assez évident de pouvoir parler d'elle, puisque je vous rappelle qu'elle a été brûlée vive à Rouen en 1451. Mais par ailleurs, Jeanne d'Arc, c'est pas si évident que ça pour un maire radical socialiste comme André Marie, parce que c'est une figure qui est quand même captée beaucoup par la droite sous la Troisième République. On passe devant une fontaine au Lion qui évoque un petit peu l'Alhambra de Grenade, cette fontaine d'origine espagnole. Alors là, on est toujours dans le centre-ville, mais on est dans un quartier d'habitation, un quartier d'habitat social. Et donc là, on est directement dans l'idée qu'avait André Marie de mettre l'œuvre d'art au contact direct des populations. Barentin est une population, une ville qui est essentiellement ouvrière, encore aujourd'hui du point de vue de la statistique. Et là, on va passer sous un édifice assez intéressant, la porte Henri IV. Donc cette porte Henri IV, en fait, c'est une porte qui a été déplacée. Elle se trouvait en fait à Croisset, qui est un hameau de Canteleu. Et donc le château de Croisset, en fait, a été démoli au moment où le port de Rouen s'est étendu, dans les années 60. Et cette porte Henri IV, une très très belle porte de l'époque moderne, elle a été mise aux enchères et la ville de Barentin s'en est portée acquéreur. Et donc elle est plantée ici, en plein cœur du centre-ville. Donc ça donne une sorte d'entrée vers un immeuble d'habitat social, ce qui est quand même tout à fait étonnant. Donc on se trouve ici donc devant un immeuble de plusieurs étages, un immeuble d'habitation, et au pied de cet immeuble on a une sculpture en pied assez imposante, celle du commandant Émile Duboc, donc ce héros de la guerre entre la France et la Chine en 1885. Donc c'est une sculpture qui a été commandée par la ville de Barentin et qui est réalisée en fait par Henri Lagrifoule, qui est un sculpteur important de la 4e République. Donc on voit donc ce commandant qui est dans sa vareuse, on le voit tenir un sextant indiquant en fait qu'il est marin. Et puis on voit donc sur le socle quelque chose de tout à fait intéressant. On voit des pirogues en fait, des pirogues et des hommes en train de pagayer. Donc ça renvoie vraiment à l'imaginaire colonial de la France de la Troisième République. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que c'est en fait une des dernières traces de cet imaginaire colonial. C'est une œuvre qui date du début des années 1950. Donc il est assez surprenant finalement de voir qu'on est en 2017 et une œuvre qui renvoie finalement à l'histoire coloniale de la France reste dans l'espace public. Il y aurait peut-être un débat à engager sur cette place de l'œuvre dans l'espace public.
Est-ce que c'est André Marie qui avait commandé cette statue ?
Oui, absolument. Là, il y a vraiment une commande de la part d'André Marie, puisque le commandant Duboc était un natif de Barentin, donc c'est une des grandes figures de Barentin. Et ça, c'est tout à fait dans l'optique de la Troisième République. Les grands hommes sont célébrés au Luxembourg, à Paris, mais on les célèbre aussi souvent par des copies dans leur lieu de naissance. Et c'est ce qui explique un petit peu la statuomanie de la Troisième République qu'ont étudié des historiens comme Maurice Agulon en son temps, par exemple.
Avec André Marie, on sent vraiment le goût d'un homme.
Oui, on sent le goût d'un homme qui s'impose dans l'espace public. Et le goût d'un homme à deux niveaux, c'est-à-dire d'abord au niveau esthétique et puis ensuite évidemment au niveau politique. Donc au niveau esthétique, ce qui est frappant, c'est l'importance de la statuaire figurative. On a très peu d'œuvres ici qui sont de facture abstraite, alors que la sculpture abstraite existe déjà à cette époque-là, elle existe depuis l'entre-deux-guerres et elle caractérise aussi une partie de la création d'avant-garde des années 50. Donc ça, c'est vraiment tout à fait le goût d'André Marie et aussi le goût de l'époque, puisque finalement, ces sculpteurs étaient reconnus sous la 4e République, ils faisaient l'œuvre de commandes publiques assez régulières. Et puis, le goût d'un homme comme André Marie, c'est aussi évidemment un goût politique, puisqu'il s'agit d'éduquer la population par l'image, avec en plus des dédicaces qui permettent aux habitants de savoir qui est représenté. Donc il est clair qu'il y a ici une volonté d'imprimer, de créer une sorte de panthéon qui soit un panthéon à la fois local, des figures de Barentin, mais un panthéon qui soit aussi un panthéon national, hein, avec les grandes figures de Pasteur, de Marie Curie qu'on va trouver ici. Le projet politique est quand même effectivement extrêmement fort à ce niveau-là. C'est un projet éducatif et culturel.
Chaque rue où vous allez, il y a des statues. Ah, c'est sûr.
Au moins, ça décore la ville.
Pourquoi avoir les yeux, il y en a partout. Même là-bas, il y a une petite fontaine.
On a quatre là.
Là, il y en a même une.
Ouais, encore. Il faut être le long de la médiathèque.
On continue à droite, c'est celle-là, c'est Jeanne d'Arc.
Il y a des têtes aussi de poser sur genre le bâtiment là.
S'ils sont là, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a une histoire derrière.
Ouais. Comme l'Ostrobert, l'histoire de l'Ostrobert, quoi. En fait, la sainte Ostrobert, c'était une dame. Sur la statue, ils ont mis l'Ostrobert avec un loup à côté d'elle. Parce que, apparemment, il y avait un loup qui mangeait ses moutons, tout ça. Donc, elle a puni le loup. Et le loup, justement, il devait lui apporter tous les jours ses provisions, tout ça. C'est une sacrée histoire, quoi. Une légende, quoi. Et puis, donc, ils l'ont mis là parce que la rivière s'appelle l'Ostrobert aussi.
La mairie, c'est presque un musée en soi, quoi, en fait. Il y a énormément d'œuvres. D'œuvres d'art, des petits modèles réduits, donc c'est quand même tout à fait étonnant, quoi. Bon, qu'il y ait des tableaux dans les mairies, c'est tout à fait classique, c'est normal. Mais là, ici, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, il y a eu une vraie politique, en fait, d'acquisition, lancée dans les années 50 et qui a été soutenue au moins jusqu'au milieu des années 70, ce qui fait qu'on a un nombre d'œuvres important. Au niveau de l'inventaire, ils en sont à 350 œuvres d'art, en fait. Donc à l'intérieur, des bâtiments publics comme la mairie, et à l'extérieur, dans la ville. Et donc là, on est vraiment dans une logique de démocratisation culturelle qui est classique de la République des Beaux-Arts, hein, qui se met en place sous la Troisième et qui, en fait, est confortée sous la Quatrième République. On n'a pas de ministère de la Culture sous la Quatrième République, sauf à une période très très courte au moment de la Libération. Et donc là où André Marie va être très avisé, c'est qu'en fait il va intervenir pour récupérer des œuvres qui sont déjà achetées, donc il n'a pas forcément au départ choisi. Et donc en fait par la stature qu'il avait, hein, donc cette stature de ministre, cette stature de président du conseil, il va obtenir que ces œuvres soient mises en dépôt dans sa ville. Donc ça c'est un premier mécanisme qui est simplement de pouvoir organiser un circuit de dérivation de la commande publique vers sa ville. La deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il intervient comme amateur directement au moment de la commande, parfois. Il va chercher des artistes et il essaye en fait ensuite de faire l'intermédiaire entre l'artiste et le service des Beaux-Arts pour que le service des Beaux-Arts commande à l'artiste une œuvre qui va être mise en dépôt à Barentin. Donc là, en quelque sorte, on a la trace du fait du prince, le prince qui s'impose à l'administration, et on voit comment cette commande, ce goût du ministre passe et s'impose à l'administration.
Thank you.
Est-ce qu'on peut tracer des grandes lignes de cette relation entre pouvoir public et artiste ?
Cette relation, elle évolue peut-être plus en fonction des changements de personnel au sein de l'administration qu'en fonction des changements au sein du personnel à proprement parler politique. C'est-à-dire qu'on voit par exemple que la personne qui est en charge du Bureau des Travaux d'Art, donc l'organisme qui est chargé de passer ses commandes en 1945, c'est quelqu'un qui s'appelle Robert Ray et qui publie un ouvrage contre l'art abstrait, un ouvrage qui s'appelle La peinture moderne ou l'art sans métier. On voit qu'il n'est pas extrêmement favorable à l'art moderne. En revanche, à la fin de la période, c'est Bernard Antonioz qui a été l'éditeur des Yeux d'Elsa d'Aragon, qui a été l'éditeur de Malraux, qui est quelqu'un de beaucoup plus ouvert à la modernité, et ça joue bien sûr évidemment. L'arrivée de Malraux, cependant, au ministère de la Culture, avec la création de ce ministère, est clairement un jalon politique important. On voit qu'on va commander à moins d'artistes, mais qu'on va commander peut-être des commandes plus prestigieuses et qu'on va commander aussi à des artistes plus radicaux. Ça va être les commandes à Chagall, à Masson, à Calder. Bon, c'est la consécration des grands noms de l'art moderne qui se fait avec l'arrivée de Malraux.
Il y a 5 ans, la prééminence de la culture dans la vie de la nation était consacrée par la création d'un ministère.
Le ministère de la Culture est créé en 1959, donc c'est vraiment une petite révolution au sein de l'administration culturelle française, et c'est également un geste symbolique extrêmement fort. Et le fait qu'il soit confié à la personnalité de Malraux est loin d'être anodin, puisque ce sera vraiment un soutien majeur de la création la plus contemporaine sur cette période.
Et puis Malraux nomme, dès son arrivée, pratiquement Gaëtan Picon à la direction générale des Arts et Lettres, et donc remplace Jacques Jaujard qui était en poste depuis 1945. Donc on assiste là à une petite révolution de génération. Et ensuite, en 1962, Bernard Antonioz donc arrive à la direction du service de la création artistique, qui est un nouveau service, hein, complètement imaginé par Picon et Malraux, et qui porte d'ailleurs le titre d'un livre de Malraux qui avait lui-même été édité par Bernard Antonioz. Donc on voit là de quelle façon les amitiés littéraires et artistiques prennent forme dans une voie administrative.
Et quel est le titre de ce livre ?
La création artistique.
Le 18 novembre 1964, sous l'impulsion d'André Malraux, la France reconnaissait enfin aux artistes l'égalité dans les droits sociaux. Des ateliers nouveaux, pleins de lumière, se substituent aux locaux insalubres et insuffisants qu'a connus un Modigliani.
Est-ce qu'on peut voir justement les documents que vous avez pu rassembler à propos des commandes passées sur les grands plafonds dans les monuments ?
Ils font l'objet de 3 vitrines qui ouvrent la partie, la dernière partie de l'exposition consacrée précisément à l'entrée de la modernité et même dans la commande publique.
Ce sont peut-être les exemples les plus célèbres et prestigieux de ces commandes publiques, les plafonds qui ont été commandés à des grands peintres pour décorer le Louvre, enfin une partie du Louvre, l'Opéra Garnier, le Théâtre de l'Odéon.
Absolument, c'est généralement les exemples auxquels on pense quand on essaie de citer un exemple de commande publique sur ces années. Et pour le plafond de Chagall, on voit dans ses archives de quelle façon ce type de commande-là provient du plus haut niveau de l'administration, puisqu'on a ici un plan de table pour un déjeuner le 12 décembre 1964 à la présidence de la République, où le couple Chagall est invité à déjeuner au milieu de la table. Vous voyez, ils ont les places d'honneur à côté du couple de Gaulle et d'André Malraux. Ce qu'on raconte généralement, c'est que Malraux, avec le général de Gaulle, avait assisté à une représentation à l'opéra d'un spectacle et qu'à l'issue de cette représentation, ils auraient eu l'idée de passer cette commande.
Pourquoi est-ce qu'il fait scandale à l'époque ?
Oh, mais parce que il fait scandale à tout niveau. Ce n'est pas du goût de tout le monde. C'est tout de même un remplacement absolument radical. Le plafond d'origine, comme le dit d'ailleurs Pompidou dans le discours d'inauguration, il dit « Y avait-il avant un plafond à l'opéra ? Je me le demande. » Donc c'est-à-dire que c'était un plafond qu'on ne voyait pas, d'une certaine manière, qui était fondu dans le décor. Et là, on se retrouve avec un plafond extrêmement visible, avec des couleurs extrêmement vives, avec des motifs très, très nouveaux, très modernes, qui départent par rapport au décor du théâtre lui-même. Donc là, on ne peut plus faire comme si on ne le voyait pas.
L'Opéra de Paris fait beaucoup parler de lui en ce moment. Motif, son nouveau plafond déjà connu sous le nom de plafond de Chagall.
Inauguration du plafond peint par Marc Chagall à l'Opéra Garnier, 24 septembre 1964.
De la manière suivante, La surface du plafond, qui est une vaste coupole couvrant 200 mètres carrés, a été géométriquement découpée en 24 triangles. Ces triangles ont été moulés en matière plastique et recouverts de toile à peindre. Marc Chagall, aidé par une petite équipe, a peint lui-même chacun de ces éléments à partir d'une maquette préalablement dessinée par ses soins. Puis tous ces éléments ont été fixés côte à côte par-dessus l'ancien plafond, lequel, par conséquent, demeure intact. Chagall a surveillé lui-même toutes les phases de l'opération.
Marc Chagall, nous voici dans votre atelier à Paris, près de la Seine.
J'ai été bouleversé par la proposition énorme de notre ministre Malraux. Et je ne savais pas quoi penser, j'ai été étonné et c'était formidable.
C'est en écoutant Mozart que Chagall a peint ce plafond. Seules quelques rares personnalités ont pu le voir avant la conférence de presse, parmi elles, M. André Malraux et M. Georges Pompidou.
Le nom de Malraux, le nom de Chagall, cela suffisait pour nous faire attendre quelque chose de magnifique. Je dois dire néanmoins que la réalité dépasse mes espérances. Ce plafond introduit dans l'opéra la couleur et la lumière. Il s'intègre admirablement dans le cadre de la vieille salle et il y introduit quelque chose de neuf qui, en même temps, rendra à cette salle un attrait plus vivant. À vrai dire, d'ailleurs, il y a des fois où je me demande, depuis que j'ai vu ce plafond, est-ce qu'auparavant, il y avait un plafond à l'opéra ? Qui le sait ?
Alors, cette place des avant-gardes dans les collections de l'État au XXe siècle va être de plus en plus importante. On voit que dans les années 1960, par exemple, on va mener une politique de rattrapage où on va acheter des œuvres de jeunesse, d'artistes alors en fin de carrière. On va par exemple acheter aux époux Delaunay des œuvres des années 1910. On va acheter à des représentants du surréalisme de Dada des œuvres de la fin des années 10 et des années 1920. On va donc en somme essayer de combler les quelques lacunes qu'on identifie dans la politique d'acquisition de l'État avant-guerre. On parle de relance de la commande publique dans les années 1980, car en fait, on se rend compte qu'entre Malraux et les années 1980, le ministère de la Culture est moins actif dans le domaine de la commande publique. Il y a quelques programmes de commandes importants en France, notamment autour de la défense, mais qui de mémoire est géré par le ministère de l'Équipement à cette époque. Et au ministère de la Culture, en effet, après Malraux, le nombre de commandes semble baisser. Alors, on continue à voir le dispositif du 1%, permettre la création d'œuvres d'art contemporains dans des nouveaux bâtiments, mais l'art dans la rue se fait peut-être un peu plus timide, et en tout cas on voit très clairement une hausse très forte du nombre d'œuvres commandées à partir du début des années 1980. Il y a une volonté de gestes forts auprès d'artistes relevant de ce qu'on appelle alors ce qu'on appelle l'art contemporain, hein. On parle plus d'art moderne mais d'art contemporain, et de confrontation du coup de cet art au public le plus large, la volonté aussi donc de démocratie culturelle, hein. Il s'agit de faire découvrir cet art parfois radical au public le plus large. Alors le président François Mitterrand et Jack Lang vont avoir un rôle d'impulsion fondamental sur le programme de relance de la commande publique pour la ville. Alors, l'exemple canonique, hein, c'est bien entendu cette œuvre de Daniel Buren qui s'appelle Les Deux Plateaux, et qu'on connaît plus largement aujourd'hui sous le nom Les Colonnes de Buren, qui est une commande qui va voir le jour entre 1985 et 1986. Et je pense que c'est de loin la commande la plus emblématique de ces premières années de la relance de la commande publique. Tout d'abord en raison de très importants scandales qu'elle a suscité. On parle parfois de nouvelles batailles d'Hernani pour qualifier le scandale qui l'a suivi. Sans doute parce qu'elle elle vient s'intégrer dans un lieu prestigieux, un lieu central de l'histoire de France, qui est le Palais Royal, à proximité du ministère de la Culture, du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, donc un lieu hautement touristique. Ce qui explique sans doute que cette commande plus qu'une autre, car elles sont nombreuses à l'époque, ait autant défrayé la chronique.
On se trouve ici sur et dans la cour d'honneur du Palais Royal où j'ai eu la possibilité de faire un travail il y a plus de 30 ans qui a comme titre Les Deux Plateaux. Alors il a tout de suite pris un nom qui au départ me plaisait pas du tout, qui a été la Vox Populi, qui a appelé ça Les Colonnes de Buren. Mais bon, on peut l'accepter aussi.
Qu'est-ce que vous éprouvez à être ici aujourd'hui en 2017, Daniel Buren?
Ben, je suis toujours vivant déjà, c'est plutôt satisfaisant. Il y a surtout non, quelque chose qui m'a toujours plu parce que ça n'a jamais changé depuis que ce travail a été ouvert au public en juillet 86. C'est le monde qui a, même une journée comme celle-ci qui est quand même un petit peu fraîche, c'est rempli de gens qui viennent et d'enfants, et etc., etc. Donc ça me plaît beaucoup de voir que ça vit et que les gens l'utilisent, ils font ce qu'ils veulent avec. Et on ne peut pas rêver mieux pour une œuvre qu'elle existe pour beaucoup de gens et vis-à-vis des gens.
Daniel Buren, dans cette œuvre, le motif de la colonne est évidemment très présent et décliné dans ses différentes hauteurs. Comment est-ce pour un artiste de réfléchir à un lieu aussi chargé d'histoire pour répondre à une proposition publique d'y inscrire une œuvre d'aujourd'hui?
C'est un lieu qui a quand même été un des lieux les plus vivants de Paris à la Révolution française, plus ou moins bien famé d'ailleurs, mais qui était extrêmement vivant. C'est aussi un lieu qui est architecturalement complètement mélangé. C'est un magnifique lieu qui justement est un mixte de petits endroits qui restent du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. Donc quand les gens disent qu'on ne pouvait pas ajouter quelque chose parce que ce lieu c'est le classicisme, c'est pur, etc., c'est surtout une pure bêtise. Vous imaginez ici dans cette cour qui a fait tellement scandale quand on a osé y mettre ce qui y est aujourd'hui, il y a eu pendant une cinquantaine d'années une usine d'électricité qui était au sous-sol, à peu près là où on voit l'eau en ce moment, et qui émergeait au milieu avec son toit en verre comme une espèce d'usine, une vraie usine. Donc l'une aussi des raisons essentielles de l'allure physique de cette œuvre, qui est très basse, c'est bien pour respecter et laisser vivre telle qu'elle est l'environnement général de l'architecture qui n'est pas caché par quelque monument que ce soit ou quel objet que ce soit qui deviendrait l'attraction. Ce n'est pas une chose qui vient cacher l'autre.
En quoi recevoir une commande de l'État, pour vous, a été un tournant dans votre carrière?
La commande d'État est une chose qui a été remise au goût du jour dans les années 81-82. Donc avant, les commandes d'État sur l'espace public, par exemple, était plus ou moins confiné aux monuments aux morts ou des choses de cet ordre.
Lorsque Malraux était ministre de la Culture, il y avait eu quand même les commandes passées à Braque pour le Louvre, à Chagall pour le plafond de l'Opéra, Garnier, le plafond d'André Masson. Il y avait eu quand même des grands actes de commandes à des artistes contemporains dans des lieux historiques.
C'est l'exception qui confirme la règle. C'était mieux que rien, bien sûr, mais ce n'était pas très courageux de demander à des messieurs qui avaient tous 75 ans, de faire des travaux, on ne se mouillait pas trop. Ce qui est très courageux dans la commande quand elle commence à exister, c'est de demander à des gens qui sont jeunes, ou plutôt plus jeunes, de risquer et de faire quelque chose au niveau du public. D'ailleurs, si je ne me trompe, les commandes faites par Malraux sont toutes des commandes intérieures. Ce n'est pas des commandes sur l'espace public, en sens espace public ouvert à tout le monde. C'est l'espace public, oui, l'opéra, mais qui va à l'opéra? C'est l'espace public du Louvre, oui, mais qui va au Louvre, etc. Donc c'était des choses très, 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 je dirais presque confinées. On demandait à un inconnu comme moi, par exemple, en 85, de faire une chose comme une place aussi grande que le Palais Royal. Ça, évidemment, c'était quasiment du jamais vu. Donc là, il y a quelque chose qui change. Il y a une autre vision qui a quand même ouvert sur concours, bien sûr, mais à des dizaines et des dizaines d'artistes dont beaucoup sont même toujours pas très connus du grand public. Donc c'est un risque pris par ceux qui le décident qui est un autre état d'esprit. C'est peut-être pas aussi florissant ces dernières années que ça l'a été entre 85 et 2010, disons, pour prendre une date, mais enfin, ça reste quand même vivant. Et ça dit aussi beaucoup de choses. Ça veut dire que, pour les artistes eux-mêmes, c'est une nouvelle situation. C'est-à-dire que l'artiste a pris l'habitude, en 150 ans, de travailler pour des privés, pour travailler dans l'espace de la galerie, du musée, qui fait complètement perdre de vue ce qu'est-ce que ça peut être de travailler pour l'espace public. Donc, d'un seul coup, remettre ça au goût du jour, ce que moi j'ai trouvé tout à fait formidable, c'est aussi une responsabilité et une façon de réapprendre et d'apprendre qu'est-ce que ça veut dire. Donc, accepter une commande publique, c'est d'un seul coup se jeter dans quelque chose dont on n'a plus l'habitude, donc on n'a plus les repères, dont on ne connaît pas les vraies raisons, ni ce que ça peut provoquer. Et c'est pas pour rien qu'un scandale comme celui qui s'est levé au Palais Royal, c'est sur une commande publique. C'est pas sur un tableau dans un musée. La commande, comme on peut la voir aujourd'hui, dite publique, c'était une nouveauté, et c'est une nouveauté qui s'est répandue dans le monde entier. C'est une chose qui est plus du tout hors de l'esprit des gens. Et depuis ça, depuis ce temps-là, j'en ai fait, je sais pas, à travers le monde, à peu près, je ne sais pas le chiffre exact, mais ça ne doit pas être loin de 180 ou 200.
Alors, un autre exemple important de cette relance de la commande publique dans les années 1980, ce seraient les deux œuvres d'Armand qui sont sur le parvis de la gare Saint-Lazare à Paris. Elles sont d'ailleurs tout à fait contemporaines des colonnes de Buren. Alors, ces œuvres, ce sont deux accumulations, un genre de création pour lesquelles Armand est célèbre. Donc, des accumulations d'objets. L'une est une sorte de colonne de valise qui s'appelle « Consigne à vie ». Et la seconde est une colonne d'horloge qui s'appelle « L'heure de tous ». Mais donc, ce sont deux commandes d'ampleur. Un artiste qui s'est fait connaître dans les années 60 pour sa participation à un mouvement extrêmement important de l'histoire de l'art français de l'après-guerre, qui sont les nouveaux réalistes. Et c'est là aussi une commande qui a suscité quelques remous. On a des traces de courriers dans nos archives, par exemple, de riverains qui en a assez savouré, qui commence par « Je vote socialiste et pourtant je n'accepte pas cette pièce ». Bon, je résume assez schématiquement. Donc on a quelques traces de protestations. Elles sont bien moins nombreuses que sur les colonnes de Buren. Armand lui-même, dans une interview, parlait un petit peu de la manière dont son œuvre avait été reçue. Il disait que la première année, il entendait beaucoup de plaintes et que quelques années après, les chauffeurs des taxis lui expliquaient l'œuvre, ne sachant pas qui il était. Et aujourd'hui, bon, c'est des œuvres qui servent parfois de lieu de rendez-vous. Donc il y a souvent, sur ces premières œuvres des années 80, quand elles sont esthétiquement assez radicales comme celle-ci, car on a aussi commandé dans les années 80 des œuvres de facture nettement plus classique, un petit temps, en fait, d'appropriation de l'œuvre pour qu'elle rentre dans la vie quotidienne des riverains et qu'elle intègre l'imaginaire collectif.
Et est-ce que le projet de démocratisation de la culture vous semble réussi ?
Alors, je crois que c'était quand même un défi particulièrement complexe à mettre en œuvre. Je ne vais pas vous dire qu'aujourd'hui tout le monde aime l'art contemporain, c'est pas vrai, mais au moins on a la possibilité d'y être confronté, et que ça, quelle que soit notre origine sociale. On voit qu'avec les musées, ça a été d'ailleurs très bien étudié par Pierre Bourdieu dans L'amour de l'art, avec le musée, qu'il soit gratuit ou non, on a un effet de seuil. C'est-à-dire que certaines personnes ont le sentiment que cette institution n'est pas faite pour eux. Et même si l'entrée est gratuite, ne franchiront pas le seuil du musée. Cette idée de mettre de l'art dans la ville, c'est un moyen de contourner cette difficulté aussi. Et là, je crois qu'on peut se réjouir que ces œuvres n'aient pas été accueillies par de l'indifférence. C'est-à-dire que des querelles comme celle des deux plateaux de Daniel Buren, ça a été l'occasion de parler d'art contemporain en France pendant des mois, en une des journaux. Et c'est un moyen de faire en sorte que ces questions esthétiques soient largement diffusées, quelle que soit la vie qu'on ait sur celle-ci. Et sur ce plan-là, je crois que c'est vraiment une réussite. Après, on peut regretter que certains projets, peut-être, n'aient pas été accompagnés par des dispositifs de médiation très forts. Il est vrai que la médiation est aussi une discipline qui s'est beaucoup professionnalisée et perfectionnée ces dernières années, et qu'aujourd'hui, on essaye d'accompagner les projets naissants beaucoup mieux par des visites, par des applications de vie, par des applications qui vont permettre d'obtenir des informations sur l'œuvre, par une sensibilisation la plus large possible de la population aux œuvres qui sont installées. Mais ça reste un défi, hein, c'est évident.
Comment pousser plus loin l'idée de la démocratisation culturelle et mieux cerner le public visé par la commande publique? Et comment celle-ci peut-elle refléter non seulement une politique d'État, mais le peuple que l'État est censé représenter? Le protocole dit des nouveaux commanditaires au sein de la Fondation de France tente de répondre au défi d'inclure le citoyen dans la scène de l'art public, en faisant naître des œuvres à partir de commandes formulées par les gens, à partir de désirs, de besoins, de questions, pour lesquelles seul l'art et la création en commun sont capables d'inventer des réponses.
On est sur le territoire des Canaux, c'est le plus grand territoire de la ville, et le plus grand et le plus pauvre, qui concentre à peu près 9000 habitants. Alors cet endroit, c'était un espace, surtout un complexe sportif, accessible surtout pour les licenciés. Aujourd'hui, c'est un lieu qui est complètement différent, et qu'on a construit, co-construit, donc il y avait du technique, du politique, de l'associatif, de l'habitant, tous le même niveau de réflexion, de pouvoir presque, de décision.
Donc j'ai une espèce d'intuition en me disant que peut-être que finalement on avait une chose sur laquelle les artistes n'étaient pas encore vraiment penchés, c'était la forme même de relation entre la société et les artistes.
François Hers, artiste et cofondateur du protocole des nouveaux commanditaires à la Fondation de France.
Arrive les années 80 où il y a une espèce de professionnalisation de la scène de l'art qui est mondiale. On multiplie de manière exponentielle les musées, les théâtres, les opéras, les biennales, les festivals. Des mille et une manières de donner accès aux œuvres d'art en pensant que c'est ça qui allait socialiser l'œuvre d'art. Pour moi, c'est une impasse. Mais c'est un défaut. Je pense que c'est vraiment une politique par défaut. C'est-à-dire, parce qu'on arrivait à un moment de l'histoire de la démocratie où il devient évident que le seul vrai interlocuteur de la démocratie, ce n'est pas le pouvoir, c'est le citoyen. Le pouvoir n'a aucune autorité culturelle de droit divin. N'importe quel élu sait très bien qu'il peut imposer ses conceptions et ses convictions, sous peine de provoquer des réactions très vives. Donc on arrive à ce tournant là maintenant, c'est la fin de ce système de l'offre, cette fameuse politique de l'offre qu'on appelle en France, qui coûte une fortune. On arrive aussi à la limite même financière de cet investissement. Et puis la limite, c'est que ça ne provoque pas la démocratisation de la culture à laquelle on tentait tout le monde, donc que tout le monde espère. Voilà, c'est un peu ce nœud-là que j'ai essayé de résoudre. Pour investir dans une création, il faut savoir pourquoi on investit, pourquoi on crée. La clé, c'est que, pour la première fois dans l'histoire, c'est la société elle-même, maintenant, qui devient l'interlocuteur de l'artiste. Le pouvoir de décider de créer n'appartient plus seulement aux artistes, il appartient à la société elle-même. Mais d'un autre côté, notre société a besoin de créer. On a besoin de créer. Il faut nous réinventer toutes nos formes de relations aux autres, à l'espace, au temps, à nous-mêmes. On est contraints à le faire, par toutes les révolutions technologiques. C'est de mettre un lien entre des questions de société qui se posent effectivement, quelqu'un, quelque part, a posé une question de société qui a une dimension d'intérêt général. Donc voilà, donc, au citoyen de dire la raison d'être de l'art, à l'artiste d'inventer des formes appropriées, aux professionnels de la scène de l'art, qui sont très nombreux et très qualifiés, de faire non pas seulement le lien entre les œuvres et le public. Donc je leur dis, vous continuez, mais vous faites le lien entre les personnes maintenant. Aux élus politiques d'aider à faire la médiation politique avec le médiateur artistique et aux intellectuels de mettre en lumière tous les enjeux qui sont révélés par ces demandes sociales ou par les œuvres elles-mêmes.
J'avais pas du tout pensé un jour être amené à construire un projet à partir d'une démarche artistique.
Aujourd'hui, on en est à l'étape mobilier. On a vu arriver hier les meubles conçus par Mathalie. Et ces meubles répondent complètement à des attentes qu'on lui avait formulées, puisque voilà, on avait demandé du matériel modulable.
En tant que designer, ce que je défends, c'est l'idée d'amener des nouvelles logiques. Des nouvelles logiques qui sont à la fois plus de notre temps et d'accompagner dans le contemporain. Et donc, quand on est designer et pouvoir avoir la chance de travailler sur un projet comme ça, c'est ce qui, en fait, fonde vraiment mon travail en ce moment. Et de plus en plus, j'ai envie, puisqu'il y a toujours cette dominante de travailler sur des projets qui proposent le partage, la générosité, mais aussi travailler sur des objets qui ont une propre dynamique et en même temps qui donnent la possibilité aux gens d'agir et d'avoir une action sur l'environnement. Donc on est ici dans un cadre particulièrement exceptionnel où il y a ce tissu, ces liens entre les gens et qui ont décidé de prendre en main les choses et de faire évoluer les choses.
Les gens, c'est intéressant de voir la réaction des gens. La première réaction des gens, c'est de nous dire « c'est pas pour nous, c'est pour l'élite ». Alors, en tant que Belge, je vous disais, mais vous savez, vous avez coupé le cou au roi il y a deux siècles, c'est un droit républicain. Vous pouvez peut-être l'assumer. Il dit, oui, vous avez peut-être raison. Alors, il a dit, de toute façon, on n'y connaît rien. Je dis, il n'y a pas besoin de connaître l'histoire de l'art pour connaître vos besoins de création. Et puis, justement, c'est le rôle du médiateur d'apporter les savoirs nécessaires. Qui sont les artistes qui pourraient vous répondre? Comment monter une production? Comment trouver de l'argent? Tout ça, il maîtrise les circuits, c'est son métier. Et puis, ils disent, ça coûte beaucoup d'argent. Vous avez raison, l'art a toujours coûté cher depuis l'Antiquité. Mais on peut trouver de l'argent dans une société riche. Si la commande a du sens, on peut trouver de l'argent. Et de fait, c'est très rare qu'une commande ne se fasse pas, même si elle vaut 1,5 million d'euros. Et puis la dernière objection, c'est, mais monsieur, on n'a rien à demander, qu'est-ce que vous voulez qu'on demande? Alors on leur répond, mais c'est votre problème, c'est pas le mien. Et comme ils voient que c'est sérieux, que la Fondation de France n'est pas là pour faire un peu d'animation culturelle, que c'est vraiment sérieux, ils se mettent vraiment à réfléchir. Voilà, et puis le rôle du médiateur les a amenés à vraiment bien comprendre eux-mêmes ce qu'ils veulent. Même si dans le débat avec l'artiste ou avec d'autres, ça peut changer, il faut quand même que quand l'artiste viendra, il sache ce qu'il veut pour qu'il y ait un dialogue. Parce que le coup de dire on va venir l'artiste, c'est le coup de la commande publique. On va venir l'artiste qui nous dira ce qu'il faut faire. Et c'est l'impasse de la commande publique. Mais on a plein d'histoires comme ça. À l'hôpital des Garches, un médecin qui m'appelle parce que il dit voilà, je cherche de l'argent, tout le monde me rigole au nez, les hôpitaux de Paris me rigolent au nez, les ministères de la Culture aussi. On vient de rénover l'Institut, mais la morgue est une catastrophe. Si on a honte, on ne peut pas accepter ça. On a une responsabilité, on veut assumer cette responsabilité. En plus, le monopole des pompes funèbres va être levé en France, donc ça va être les dérives à la japonaise ou à l'américaine, tapis rose, musique douce, qui coûte une fortune aux familles. On veut, nous, pouvoir offrir ces choses aux familles dignes. Et à l'époque, c'était la grande grève des infirmières qui a duré 6 mois. Vous imaginez, dépenser, d'après ce que vous me dites au téléphone, il y a une salle d'attente, il y a une salle de reconnaissance des morts, il y a une salle on va prendre les cercueils, on part au cimetière. Il y en a au moins pour 150 000, 200 000 euros minimum. Vous imaginez dépenser ça actuellement dans le contexte. Et pourquoi ne faites pas appel à un décorateur? Pourquoi repeigner ça proprement? Il me dit, c'est très jolie chose. Monsieur, je n'y connais rien, mais je pense que dans une société laïque, seul un artiste peut proposer des formes de rapport digne à la mort. Inventer des formes de rapport digne à la mort. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il avait tout compris. On pourrait faire demain 1000 commandes. La demande est là. C'est une heureuse surprise. Il y a un désir de création très largement partagé. Il n'y a aucun préjugé de la part des gens à l'égard des créations contemporaines, contrairement à ce qu'on pouvait craindre. J'ai jamais entendu un discours réactionnaire. On veut du beau marbre, on veut de beaux métiers, on veut un truc qui dure pour l'éternité. Jamais. Les gens qui connaissent rien à l'histoire de l'art, mais ils ont une vraie conscience du rôle de l'art, de ce que peut apporter l'art. Et là, on pourrait monter enfin, pour la première fois dans l'histoire de la démocratie, une grande politique publique fondée sur la création. Et pas seulement sur le patrimoine, et pas seulement sur le spectacle. Donc, c'est pas une question d'argent, parce qu'on pourrait décider d'investir dans la création, mais pour ça, il faut une légitimité, c'est des commanditaires qui l'apportent.
C'était la commande publique au XXe siècle, mirage de l'art pour tous. Avec Guitémi Maldonado, professeur d'histoire de l'art aux Beaux-Arts de Paris, Philippe Bettinelli, conservateur au Centre national des arts plastiques, Clotilde Roulier, archiviste aux Archives nationales, Loïc Vadelorge, professeur d'histoire contemporaine et directeur du laboratoire Analyse comparée des pouvoirs à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Daniel Buren, artiste, Philippe Hers, cofondateur du protocole des nouveaux commanditaires à la Fondation de France. Archives INA et Archives les nouveaux commanditaires. Merci à François-René Martin, historien de l'art. Prise de son, Jean-André Giannichini, Laurent Lucas et Éric Audra. Mixage, Alain Joubert. Un documentaire d'Élise Gruau, réalisé par Julie Bérécy.
Artiste, rois et reines, courtisans, pensionnés ou crève la faim, LSD, c'est tout pour cette semaine. Et pour traîner au Palais Royal, bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster sous les plafonds de l'Opéra ou nous réécouter à Saint-Lazare, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Et pour toujours plus de documentaires, allez faire un tour sur le site de Tenk, notre partenaire, qui propose par abonnement une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Et la semaine prochaine, nous irons voir du côté du grand homme qui était Louis Pasteur.